Moi je suis amoureux de Paname.
J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie.
Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal.
Paris, 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 que je te quitte.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Paris, je t'aime, moi non plus.
Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Raphaël Spagnoli.
Sous le ciel de Paris marchent les amoureux.
Les villages s'appellent Sauterne, Saint-Estèphe ou Saint-Émilion.
Elle a beau avoir chanté les villages que borde la Garonne, c'est pourtant à Neuilly qu'elle est née. Elle a beau avoir chanté le blues du businessman,
t'aurais voulu être un arrêté.
Elle, elle l'est devenue, une artiste, et ô combien complète.
Pour pouvoir faire ton numéro.
Danseuse à l'Opéra de Paris puis à la Comédie Française, mime avec Marcel Marceau en personne, danseuse dans la revue de Joséphine Baker, elle a chanté dans les clubs de jazz de Chicago, avant de fouler la scène de Broadway comme meneuse de revue dans un spectacle des Folies Bergères. Au théâtre, elle a commencé par brûler les planches aux côtés de Jean Marais, pour y revenir très souvent avec brio. Et évidemment, il y a la chanteuse. La chanteuse black et blanche, celle que les Américains ont surnommée Soul Sister. La chanteuse qui demandait de lui téléphoner et de lui parler de lui. Celle qui a fait entrer dans la mémoire collective l'expression « être gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin ».
Tu étais gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi pour la première fois, je me suis enfin sentie femme.
La chanteuse fan de jazz et de bossa, l'amie fidèle de Claude Nougaro.
Quand la lune se lève bien au chaud.
Elle a chanté son Paris par cœur. Mais c'est l'île aux cygnes qu'elle a choisie entre les 15e et 16e arrondissements de Paris. C'est donc au pied de la réplique de la statue de la Liberté que je retrouve cette hyperactive de la vie artistique, la chanteuse à la voix d'or, cette voix qui nous a tous chabadabadabisés. Nicole Croisy, bonjour.
Bonjour. Ah, c'est brillant, dites-moi. Je vais quand même tout de suite
rectifier.
Y a des petites choses qui petit à petit se sont mises dans la communication par rapport à ce que j'ai fait. Y a des journalistes qui ont été un peu trop généreux et qui ont un peu agrémenté. Je n'ai pas travaillé à l'opéra.
Ah.
J'ai été élève d'un prof. D'accord. De l'opéra. Alors, quand c'est sur des bios où ça se raccourcit de plus en plus. Et maintenant, on me dit que j'étais danseuse à l'opéra, c'est faux. Alors, je veux pas annoncer des choses folles maintenant. Ça serait trop bête. Alors, il y a ça. La revue de Joséphine, je n'étais qu'une des danseuses. J'étais la première danseuse. Je n'ai pas mené la revue.
Non, non. Hein? En revanche, vous étiez meneuse à Broadway.
Non, je n'étais pas meneuse. On était dans la revue. Alors, voilà. Ils ont pris une partie des tableaux de la dernière revue de Folies Bergères.
D'accord.
Où remontaient certains tableaux qui parlaient uniquement de Paris. Bon, et moi, j'avais la responsabilité de 3 tableaux dans lesquels je chantais des chansons et je dansais. Bon, voilà. Mais je n'étais pas seule. Il y avait une autre fille formidable qui maintenant, malheureusement, est partie avant moi. Liliane Montevecchi, et qui, elle, par contre, alors, était une transfuge de chez Roland Petit et tout ça. Donc, elle était la danseuse à l'état pur. Moi, je suis la touche à tout.
Oui.
J'ai tenté systématiquement d'aller au maximum de ce que je pouvais dans chaque discipline, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ailleurs. quand ça me tente, je me dis, essayons. Qu'est-ce qu'on risque ? On essaye pour se faire plaisir. Si on arrive à se faire plaisir, tant mieux. Si c'est pas brillantissime, eh ben, tant pis, on aura essayé. Donc, je suis toujours partie avec ça. Et puis, c'est les occasions. Je fais partie des gens qui savent très bien que mener une carrière, c'est terminé ça depuis longtemps. Et donc, je saute sur les occasions quand elles arrivent. Trop contente qu'on me propose quelque chose. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée à Reno, qui est la ville du divorce aux États-Unis, et qui, à l'époque, parce que c'était en 1960, quand on dit ça maintenant, on a l'impression qu'on est un dinosaure. Mais il va falloir que j'accepte le fait que je suis un dinosaure maintenant. Et donc, je suis arrivée là-bas avec un numéro de 4 filles. J'étais la capitaine parce que moi, j'avais passé 20 ans, alors que les autres, elles étaient encore pas majeures, encore mineures. Donc, j'avais la responsabilité des 3 autres nanas. Et on est arrivé à Reno où ça n'était pas encore devenu la réplique de Las Vegas. Alors que maintenant, j'y suis retournée il y a pas très longtemps. J'y veux plus dans ces endroits-là. Une fois qu'on les a vus une fois, ça va.
C'est suffisant.
Oui, oui. Ça va parce que, bon, à moins d'être fanat des machines à sous. Mais enfin, les machines à sous, il y en a ici maintenant. Donc,
Vous jouez ?
Non, jamais. Jamais. Et quand j'y étais, jamais. Oh, j'ai dû mettre une pièce une fois de temps en temps, mais je veux dire, il faut quand même pas rêver. Si les machines sont là, c'est parce qu'elles font faire du business au casino. Donc, de temps en temps, il y en a un qui fait jackpot, tant mieux, mais...
La plupart du temps, je pense que c'est exactement. Le casino qui gagne.
On y lâche tout ce qu'on y lâche. Oui. Alors, c'est distrayant, c'est amusant. Et puis, les gens adorent croire que ça va arriver, que ça va tomber. Moi, ça ne me touche pas, surtout quand je suis là-bas pour travailler. Oui. Compte tenu que je regarde la quantité de salaire que je ramasse et je me dis, non, je ne vais pas aller, gâcher ça dans les machines à sous. Voilà. Il faut que je revienne avec quelque chose dans ma poche. Sinon, quand je rentre à Paris, ça va être horrible.
Le séjour vaut la peine. Voilà. Vous êtes vraiment une multiple casquette. Vous avez
Oui, je suis une saltimbanque.
Une saltimbanque avec des surprises, des choses. Alors, j'ai parcouru quelques archives de l'INA. Je vous ai découvert des duos formidables, notamment je pense à un duo avec Mort Schumann sur Parlez-moi de lui.
Oui, on a fait ça en Suisse.
En Suisse, à Genève,
ça, exactement. Mort Schumann, je m'en rappelle parce qu'on a travaillé qu'une seule fois ensemble.
Puisque là-bas tu es de ses amis. Assieds-toi là et parle-moi de lui.
Je suis désassi, je te le dis.
Non, enfin, je ne peux pas changer toutes les paroles.
Oui, c'est vrai. Bon, allez, continue.
Il voulait voyager du sud au nord. Et pour qu'il soit heureux, j'étais d'accord.
Ah oui.
Parle-moi de lui.
Et c'était pour une émission de variété qui était en Suisse. Parce qu'à l'époque, on allait beaucoup en Suisse, en Belgique. Maintenant, ça se fait beaucoup moins parce que maintenant, quand vous faites une émission, elle est immédiatement distribuée dans toute la francophonie. Donc,
parle-moi de lui.
Il ne parle de toi.
Comment va sa vie?
Il ne pense qu'à toi.
Mais j'avais trouvé ce moment très particulier. Il y a du jeu justement autour de cette chanson entre vous deux. Il y a de la comédie.
Je me rappelle pas.
C'est très drôle.
Je me rappelle pas de ce que j'ai fait. Parce que on ne répétait pas des masses. On répétait à peine. C'était de l'improvisation. Quand c'était des gens comme lui, comme Mort, bon, il avait été élevé à l'américaine et Mort Schumann, c'était avant tout un auteur et un peu un compositeur. Mais a priori, ce n'était pas un interprète, ce n'était pas un chanteur. Donc, c'est une partie qu'il a fait quand les chansons ont commencé à marcher pour lui. Donc, on improvisait, quoi.
J'ai vu aussi un moment très, très touchant où vous interprétez la chanson écrite par Didier Barbelivien, Léo, devant Léo Ferré.
À la frontière de l'Italie, tu regardes Paris en photo, Léo.
Ah, ça alors, ça a été inventé. La situation a été provoquée par le réalisateur, Grimbach. Et il avait eu l'idée, il m'a dit, écoute, moi j'ai une caméra qui est face à Léo et qui prend Léo en gros plan. Parce que je sais que quand il va t'entendre chanter, cette chanson, ça doit être la première fois qu'on lui fait une chanson. Donc il va y avoir des réactions. Comme en plus, c'était un acteur fini, hein, Léo. Donc il pouvait avoir la larme à l'œil, si c'était utile sur le moment, il jouait le jeu. Donc moi, on me met au bout du piano, long piano, un dimanche après-midi. Donc là, j'ai eu, moi, une sensation affreuse. Je ne savais pas comment comporter. Parce que je l'avais devant les yeux. Mais il était improbable que j'arrive à lui chanter ça les yeux dans les yeux. C'était d'autant plus que Barbelivien, qui est un petit malin, il avait pris que des phrases de Léo.
Rouge du temps présent, il n'y a plus d'amour. Il n'y a que des chansons.
Donc le texte, en fait, était une œuvre de Léo, mais qu'il ne savait pas, puisque ce n'est pas lui qui l'avait fait. Donc, et ça faisait une histoire. Donc, je m'arrangeais pour regarder à côté.
D'accord.
Pour ne pas être les yeux dans les yeux. Alors, je regardais dans la situation de la caméra, mais pour être à l'aise, mais que ça ne se voit pas, on pouvait croire que je le regardais les yeux dans les yeux, mais parce que je savais qu'il allait me faire un grand numéro. Donc, je me disais, comment je vais arriver au bout ?
Il y a des marins qui se souviennent du port d'Instant de Saint-Malo. Léo.
Ça a été un moment incroyable.
C'est
sur le plateau,
beau, et...
parce que sur le plateau, tout le monde a plongé dans la situation.
Avec aussi justement à la fin Didier Barbelivien qui arrive, c'est 26 ou 27 ans, je crois, un peu fébrile aussi, j'imagine, impressionné par vous deux.
Le truc de Barbeau, c'est que c'était un fan à tout crin de Léo.
Ouais.
Donc il était content.
Oui, c'est un très
Mais
bel hommage.
Il a écrit le truc. Oui. Et puis quand il me l'a donné, on a travaillé avec Michel Colombier pour donner un son qui soit quand même relativement moderne derrière, de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une ressucée.
D'accord.
Il ne fallait pas que ce soit à la manière de Léo.
Oui.
Voilà.
Et évidemment, dans votre parcours, la rencontre avec Claude Lelouch, Pierre
Ah,
Larouille,
bah ça, maintenant, on est lié à vie et on est lié à mort, là, parce qu'on a un an de distance.
D'accord.
Et à chaque année, quand on se croise, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui me met dans votre café au lait, donc je ne téléphone pas.
D'accord.
Je sais comment il vit, je sais comment il fonctionne. Cet homme-là a toujours un train d'avance sur sa propre vie, quoi. Il est toujours en avant. Il est tout le temps en train de penser à la prochaine chose qu'il a envie de faire et tout ça. Donc, je ne me sens pas vraiment de l'appeler. Il faut l'appeler à 8h30 du matin. Et de lui dire quoi ? Bonjour, comment tu vas ? C'est tellement hors de propos à partir du moment où lui, il est déjà en train de penser à autre chose. Il le sait, il a très bien compris. Je lui ai dit, tu sais, tu ne m'auras jamais au téléphone si tu ne me demandes pas de te rappeler. Hein. Parce que t'as autre chose à faire. T'as pas à perdre de temps avec des gens qui vont faire blablabla, quoi.
C'est un peu un hyperactif comme vous. Vous vous qualifiez vous-même d'hyperactif.
Oui, mais enfin, c'est-à-dire que moi, je suis pas vraiment hyperactif. Je réalise maintenant, à l'âge que j'ai, mais lui, il continue à l'être. Moi, maintenant, à l'âge que j'ai, je me rends compte que j'ai été hyperactif parce qu'en réalité, j'étais une grande paresseuse.
Ah.
Oui, ben, j'ai découvert ça avec le confinement.
D'accord.
À moi, ça ne m'a pas ennuyé du tout, le confinement. J'étais ravie. D'un seul coup, le fauteuil, les films, les séries américaines, et pas de coup de fil constamment, pas dérangé. C'était Byzance.
Vous étiez ici à Paris, durant le confinement ?
Ah, j'ai pas bougé. J'étais là, au 28e étage, ça va, on est au-dessus. On est au-dessus des problèmes.
Vous avez été aussi Tuesday Jackson, pardon pour mon accent. C'était le film de Marcel Carné.
Oui, c'est Marcel Carné voulait pas, évidemment, que je m'appelle Nicole Croisi, voilà. Parce que Nicole Croisi, elle avait fait un homme et une femme. Donc, il voulait pas qu'il y ait de confusion. Comme en plus, j'avais enregistré en anglais et que tout le monde, pendant la période de post-production, tout le monde disait à Lelouch... Où t'as trouvé cette chanteuse noire américaine ? Noire en plus, noire américaine. Ouais. Tout ça parce que moi j'adore le gospel et que... Mais je ne l'ai pas chanté comme un gospel, c'est pas un gospel.
Oh, what else can I do ?
C'est un petit peu comme un blues, mais pas vraiment non plus. C'est pas... Les musiciens vous diront non, c'est pas un blues, mais elle a chanté comme si c'était un blues. Enfin bon, toujours est-il que Carné, il a fallu que je prenne un nom étranger. Et ils m'ont appelé d'une seconde à l'autre, quoi. L'éditeur me téléphone, il me dit, il faut que tu me trouves un nom américain. Alors je lui dis un nom américain, pourquoi ? Parce que tout le monde croit que tu es une noire américaine, donc trouve-moi un nom américain. Carnet veut pas que ce soit ton nom. Maintenant qu'il sait que c'est toi, ça va, c'est passé. Mais il a accepté, mais à condition que tu t'appelles autrement. Alors j'ai cherché, j'ai dit, attends, en ce moment, il y a cette magnifique jeune star américaine qui s'appelle Tuesday Weld. Je me dis, tiens, Tuesday, ça va faire le même système que dans les Caraïbes. Quand on ne sait pas quel nom prendre, on prend le nom du saint de la journée pour les enfants. Bon, oui. Alors j'ai dit, ça va Tuesday. Et maintenant quoi ? Je prends le plan de l'Amérique et puis je me dis, de quel côté c'est vraiment très très noir, les gens et tout ça, Jacksonville. J'ai téléphoné, j'ai dit, bon, tu mets Tuesday Jackson. C'est passé comme une lettre à la poste, sauf pour les copains américains qui me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce nom que tu as pris ? J'ai dit, j'ai pris ce que j'ai pu. Les petites Jackson 5 et Michael Jackson, ils n'étaient pas connus encore.
Partout aussi, au théâtre.
C'est-à-dire que le théâtre, ça faisait partie de l'envie primaire que j'avais.
Vos premières amours.
Oui, étant danseuse, j'ai fait partie de la génération qui est née juste avant la guerre, parce que j'avais 3 ans quand la guerre est arrivée, et j'en avais 7 à la fin de la guerre. Donc, à 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? On a été libérés par les Américains, mais les Américains, quand ils vous libèrent, ils amènent leur culture avec eux. Donc, d'un seul coup, évidemment, on a découvert le chewing-gum, on a découvert tout ça, mais aussi les films, des comédies musicales de Los Angeles, de Hollywood. Alors moi, je suis tombée devant ça, et mon rêve de devenir une petite danseuse comme à l'opéra, danseuse classique avec le diadème sur la tête, je me suis dit non, maintenant il faut que j'apprenne tout, il faut que je sache tout faire. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de conservatoire qui touche à tout, donc ça a été un petit peu plus compliqué pour moi. Il a fallu que je sois vraiment têtue. Il fallait que je gagne suffisamment l'argent pour payer les cours de l'autre.
De l'autre art.
Ma mère
pianiste,
s'occupait, maman, oui, pianiste, mais pianiste contrarié de famille.
D'accord.
Donc elle a repris le piano après la guerre et tout ça. Il a fallu qu'elle se trouve un job pour avoir la sécurité sociale. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, le piano, elle le jouait parfaitement bien quand même. Donc, elle s'est remise au piano et elle accompagnait les cours de danse classique.
D'accord.
Et puis après, elle a été repérée par les étoiles de l'opéra. Et donc, elle s'est retrouvée à faire leurs répétitions. Après, je me suis dit, non, mais maintenant, il faut que je prenne... Ah oui, elle voulait absolument que je prenne des cours de chant. Ma mère a quand même été très, très importante pour ma formation. Elle voulait que je devienne une artiste professionnelle parce qu'elle n'avait pas pu le faire. Ça l'a vengée de l'amertume qui lui était restée à l'intérieur parce que son père était complètement... Cela dit, le mien a commencé à faire la même chose avec moi.
À contrarier vos envies d'artiste.
C'est pas un métier.
Non.
Ah,
voilà.
Oui, c'est vrai, c'est pas un métier. En fait, c'est une passion et si on peut en vivre de sa passion, tant mieux. Maintenant... C'est pas sûr qu'on va arriver à en vivre. Moi, j'ai quand même attendu plus de 15 ans avant d'arriver au végétariat. Donc, quand je vois maintenant qu'on peut arriver au végétariat alors qu'on a 18 ans, parce qu'on a un tube qui est passé sur YouTube, le monde a changé. Hein.
Évidemment. Vous l'avez chanté, si on pouvait choisir sa vie et le métier qu'on aime, je choisirais de chanter pour aider le temps à passer.
Si l'on pouvait choisir sa vie, le moment de venir au monde et le pays de son enfance sans réfléchir une seconde.
Mais ça, c'est parce que j'ai eu un bon auteur qui me connaissait un peu. Quand même, les auteurs, quand ils ont vu que ça commençait à marcher, ils cherchaient à savoir un petit peu à quoi je pensais. Parce que j'ai toujours dit, non, mais moi, je suis une interprète, hein, je raconte pas ma vie, donc... J'avais un directeur artistique formidable que j'ai fini par trouver grâce à Maxime Le Forestier à un moment donné où je sortais du jazz. Je savais qu'il fallait que je chante des chansons en français parce qu'à l'époque, être française et se mettre à chanter en anglais, c'était aberrant. Maintenant, c'est passé à l'as parce qu'il y a eu des petits groupes de rock totalement français qui se sont mis à chanter
en anglais directement.
Plus ou moins en anglais lavabo, comme on disait au début, mais maintenant, ça va. Maintenant ils apprennent. Et puis en anglais, les textes sont beaucoup plus simples. Ça sonne bien, donc tout le monde s'en fout si ça raconte pas quelque chose de formidable. Il y a une, comment dire, une partie de la, du monde de la chanson aux États-Unis où il y a des auteurs formidables. Mais à ce moment-là, ils travaillent avec des vedettes qui sont déjà en place, comme le couple qui travaillait pour, par exemple pour Barbara Streisand. Eux, ils n'écrivaient que pour des grands artistes, mais ils écrivaient des textes magnifiques.
En anglais.
En anglais, bien sûr. Alors, pour les avoir dans sa poche, c'était autre chose.
Ah là. Oui. Bon, vous avez...
Mais j'ai pas cherché ça. Je veux dire, j'ai suivi le mieux possible les occasions qui se présentaient. Oui. Et puis, les auteurs français, ça devenait des copains. Hein. Oui. Donc, ils commençaient à dire des choses. Et d'ailleurs, Le Forestier a fait une chanson, mais qui n'a pas marché sur le plan commercial du tout, qui était l'histoire d'une femme qui parle à son enfant... qui est encore dans son ventre, qui est encore à naître.
Oui, c'est à toi que je m'adresse. Toi, l'enfant que je porte en moi, même si tu ne m'entends pas.
Ça, c'était une idée. Moi, ce n'était pas ce que je lui avais demandé exactement, mais je lui avais dit que j'étais super admirative de toutes les femmes qui, à cette époque-là, commençait et décidait d'avoir un enfant toute seule. Parce que c'est pas un choix facile. C'est un choix qui est dirigé par... le couple ne va pas tenir. Donc, autant que je m'occupe de mon enfant toute seule. Mais bon, ça rend les choses beaucoup plus difficiles à vivre.
Évidemment. Alors Nicole, à l'instar de votre chanson, j'aimerais vous dire, parlez-moi de vous et de votre pari.
Oui, alors mon pari, voilà, maintenant je suis dans le 15e. Avant, j'étais dans le 9e arrondissement. Donc quand j'ai commencé, j'étais dans le 9e arrondissement. Je suis née à Neuilly, mais dans la partie la plus proche de Courbevoie, la plus proche de la Seine, qui n'était pas la partie la plus chic. D'accord. De Neuilly, mais parce que c'est ce que mes parents avaient pu trouver comme appartement. Ensuite, on est parti du côté de Villiers, à côté du boulevard de Courcelles, mais aussi pas loin de Clichy. Et puis, quand j'ai pu vivre seule, tranquille, à 20 ans, je n'étais pas encore majeure, il s'est trouvé que dans la famille, une grande tante venait de rendre légataire ma mère, et donc il y a un appartement qui était exactement en bas de la rue des Martyrs.
D'accord.
Et c'est pas triste du tout dans ce coin-là, c'est sympa, c'est tout. Et donc j'ai vécu là pendant un moment. Jusqu'au moment où j'ai pu choisir, mais ça a été long. J'ai dû rester presque une vingtaine d'années là.
D'accord, rue des Martyrs.
J'aimais bien le coin, oui. Puis il y avait des théâtres dans le coin, il y avait tout ça. C'était facile d'aller travailler pendant un certain temps. J'ai été au théâtre du Palais Royal, en doublure de Zizi Jeanmaire. Et à ce moment-là, bah, j'allais à pied au théâtre.
Ah oui.
C'était parfait.
La balade est agréable.
Oui.
En plus.
Voilà. Donc le Paris de maintenant, je me suis décentrée, on va dire. Pas énormément non plus, mais être à côté de la maison de la radio, c'était un bon plan, parce qu'à l'époque, on faisait des
les
émissions beaucoup.
Et
donc, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis un certain temps, c'est-à-dire un appartement très, très haut placé. Parce qu'à chaque fois que j'allais ou aux États-Unis ou au Canada, on mettait dans des hôtels perchés comme ça. Et c'est génial, quoi.
Ah, il y a une vue, j'imagine.
Oui, puis on a l'impression que rien ne peut nous atteindre. On est au-dessus, au-dessus du sol, on est loin, on est dans le cosmos presque, quoi. Donc, quand j'ai trouvé cet appartement-là, j'y suis arrivée et c'était l'an 2000. Et j'ai trouvé une tour, un 28e étage, la vue sur la Seine, magnifique. Donc, je suis là depuis maintenant... 23 ans, en étant 23.
Oui. Donc, si vous étiez, en reprenant ce questionnaire de Proust, Sauce Périgotte, si vous étiez un arrondissement, ce serait le 15e ?
Ça pourrait être le 15e, sinon ça serait l'endroit du Marais, c'est-à-dire le 1er, le 2e. Quoi. Oui, parce que le centre de Paris, j'ai pas envie d'y vivre, c'est trop bruyant, c'est trop... Mais pour se promener, pour se balader, c'est génial.
Si vous étiez un musée...
Je n'y vais maintenant que parce que des copains m'emmènent.
D'accord.
ce qui se passe, c'est que maintenant, comme je suis encore repérable, de moins en moins, ça va. Avec l'âge, les jeunes ne savent pas du tout qui je suis ni rien. Donc, j'ai une vie un petit peu plus facile à vivre. Mais j'ai découvert ce que ça voulait dire, que la popularité, faut pas croire que c'est facile à vivre. Pendant plusieurs années, quand j'étais très, très en promotion, quand on a découvert que j'existais, tout ça, c'était affolant. Parce que vous avez des rendez-vous, il ne faut pas vous promener dans la rue ou aller à pied parce que...
Vous pouvez être embêté.
Oui, puis moi, je fais mes courses moi-même. Moi, je suis autonome, très autonome. Oui. À chaque fois, j'allais dans un grand magasin pour chercher quelque chose, même ne serait-ce qu'un cadeau pour quelqu'un. C'était très difficile parce que les gens, dès qu'ils m'avaient reconnu, ça y est, c'était fini. Alors maintenant, il y a les téléphones. Avec les téléphones, ils ne vous obligent plus de signer des cartes.
Ah, ce sont des photos.
Ils font les photos. Mais alors là, c'est aussi insupportable parce que si vous n'avez pas prévu que vous avez la casquette sur la tête, que vous n'êtes pas maquillé, que vous avez les grosses lunettes, ça fait vraiment « je veux passer inaperçu », mais pas du tout. En réalité, c'est parce que vous n'avez pas le temps d'arriver pomponné, quoi. Voilà, donc à chaque fois je leur dis aux gens, je dis vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, hein. Je vous le dis tout de suite, si jamais je la retrouve. Hein.
Je dois en faire une moi à la fin du podcast pour la diffusion.
Non mais je
le sais,
je suis prête, je suis maquillée correctement, on va dire. Donc ce 15e je l'ai découvert, et cet endroit, cette statue, je trouve que c'est tellement... Moi, l'Amérique, pour moi, oui. Ça a été vraiment la fascination. Donc, quand j'y suis allée la première fois, j'avais donc 20 ans. On est arrivé en bateau à l'époque, parce qu'on a pris un bateau avec la
troupe.
Avec la troupe, parce que ça coûtait moins cher que de prendre l'avion. On nous a dit surtout, réveillez-vous avant qu'on arrive, parce que vous allez voir, l'arrivée dans le port, c'est magnifique. Donc... Cette magnifique statue de la liberté qui quand même porte en elle tellement de choses. C'était un cadeau de la France à l'Amérique. Donc quand j'ai vu qu'il y avait celle-là, qui était en fait, on m'a dit que c'était comme une maquette en grand qui avait été faite. Alors je me suis dit, ça c'est génial parce que comme ça j'ai tout en même temps. J'ai l'image de l'Amérique et c'est la France. Et puis il y a le parc à côté. Il y a la Seine surtout.
Les bateaux mouches qui passent là.
Oui, il y a tout, il y a les bateaux sans arrêt. Il y a aussi surtout les péniches avec le sable, parce qu'à côté il y a un gros distributeur de sable pour la construction des immeubles. C'est trimballé par les péniches parce que c'est beaucoup moins cher pour les promoteurs qui montent. Ah. Voilà. Et il faut le savoir.
Évidemment.
Mais en réalité... Ils le disent tous, les mariniers. Ils disent qu'ils pourraient très bien désenclaver Paris et les problèmes si on utilisait leur bateau pour emmener les containers même et tout ça.
Par rapport à la statue de la liberté, justement, quand j'ai fait préparer un petit peu mes fiches, j'ai noté quelque chose qui... d'assez drôle, je trouve. C'est qu'en fait, quand elle a été installée pour l'exposition universelle...
Ouais.
Ils avaient choisi qu'elle fasse face à la Tour Eiffel et à l'Élysée. Sauf que Bartholdi en était très contrarié parce qu'ainsi, elle faisait dos aux États-Unis. Donc, il a été demandé qu'elle soit tournée telle qu'elle l'est aujourd'hui, face aux États-Unis.
Face à l'Ouest.
Voilà.
Il a eu raison sur les politiques. Il a été costaud, Bartholdi.
Donc, si vous étiez un monument parisien, ce serait celui-ci ou oui,
oui, être la statue de la liberté, ça serait très bien, mais... Je me sens pas être un monument. Ou alors la Tour Eiffel, carrément. Alors.
Deux grandes dames.
Oui, grandes, longues, avec des grandes jambes.
Et si vous étiez... Alors, je ne sais pas si vous êtes gourmande, mais si vous avez un petit plaisir gastronomique parisien.
Oh là, moi, c'est terrible. Moi, c'est les carottes râpées. Alors, c'est pas... j'ai systématiquement, depuis ma jeunesse... Était obligée, oui, ça fait partie de la discipline des danseuses. Oui. Il ne faut pas gagner un gramme, il faut plutôt en perdre. Bon, maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, les péniches, et quand elles passent, elles sont bruyantes.
Effectivement.
Voilà.
Donc non, non, non. La discipline, c'est-à-dire vous définit.
Oui, je me suis refusée systématiquement le sucre. En plus, maintenant, quand même, grâce au travail des nutritionnistes, on a quand même compris que le sucre, c'est la plus grosse drogue qu'on puisse prendre. Quand on n'a pas compris qu'on aimait le sucre, pas parce qu'on avait des goûts, mais c'est surtout parce que cette substance fait en sorte que votre corps, il en veut tout le temps. Tous les gâteaux, machin, tout ça, j'ai tout supprimé, systématiquement. Donc, je ne peux pas. Je n'achète des gâteaux que quand c'est pour mes copains, parce qu'ils sont jeunes et que les jeunes hommes font du sport, donc ils peuvent supporter.
Vous avez gardé ce côté très rigoureux de la danseuse.
Je suis obligée.
C'est, encore maintenant. C'est une discipline, j'ai pas le choix.
J'ai pas le choix. Le confinement m'a un peu joué des tours parce qu'au bout d'un moment, quand on s'ennuie et qu'on est chez soi, j'en étais arrivée à boire au moins 10 cafés et je suis incapable de boire du café sans sucre.
Ah.
C'est la seule chose que je me suis toujours autorisée. Le petit morceau de sucre, le plus petit possible que j'ai trouvé, un sucre pas trafiqué, un sucre brut, et puis c'est quand même une drogue.
Je crois savoir que vous conduisez dans Paris.
Je conduis, oui, tout le temps.
Vous aimez ça ?
J'adore conduire parce que pour moi, conduire, c'est comme partir en vacances. J'ai besoin d'être autonome, j'ai besoin... Et puis surtout, à partir du moment où j'ai commencé à être reconnue...
C'était plus simple que de prendre le métro, j'imagine.
C'était indispensable parce que sinon, métro, machin, déplacement, ça me crée des complications terribles, donc... Alors du coup, maintenant qu'il y a eu la Covid, j'ai pas envie d'être dans le métro parce que je risque d'attraper. Donc, comme je suis passée au travers de cette horreur et que maintenant je suis arrivée à l'âge canonique où il faut surtout pas qu'on l'attrape parce que ça risque d'être terrible, vous disent les médecins. Mais la petite voiture, j'ai pris la plus petite. Hein. Dès le début des années 2000, quand la Smart... est devenue une petite voiture qu'on pouvait acheter relativement facilement parce qu'il y en avait d'occasion.
D'accord.
Sinon, elle est très chère. Mais c'est
proportionnellement à la taille de la voiture.
C'est une voiture d'une grosse marque allemande, qui est gérée par une grosse marque allemande. Et donc, le moteur est formidable, tout est formidable, le prix aussi. Je ne veux pas dépenser d'une façon folle comme ça l'argent que j'ai eu tellement de mal à gagner. Parce que pendant des années, je n'ai pas gagné d'argent. Donc, j'ai gardé ces habitudes d'économie et de dire, quand j'achète quelque chose, il faut que ce soit très, 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 très utile ou d'une beauté que je ne peux pas refuser, quoi.
Est-ce qu'il y a cependant une station de métro qui vous parle plus qu'une autre ?
Bah, ça serait celle du Châtelet.
Le théâtre, les
comédies
musicales.
Oui, parce qu'il y avait le Châtelet.
Le centre.
Que j'y ai travaillé en plus à un moment donné, quand j'ai fait Elodoli. Donc j'étais dans le Châtelet, j'avais la loge au deuxième ou troisième étage, enfin, c'était parfait. Et puis en face, il y a le théâtre de la ville. Pour le moment, il n'y a que le hall qui est terminé. Quoi. Il n'y a pas encore de spectacle dedans, c'est pas encore en état de marche. Et puis il y a à côté tout le forum, qui au fur et à mesure des années est devenu un lieu sympathique. Non pas que j'aime me promener sans arrêt dans les centres commerciaux, mais c'est pratique.
C'est pratique pour aller au cinéma. Vous allez au cinéma ?
Et le cinéma, oui, mais en ce moment, non. Depuis quelque temps, non. Je vais vous dire, depuis le confinement, j'y vais plus.
Vous allez au théâtre, cependant ? Beaucoup.
Ah oui, ça oui, tant pis. Quand on va au théâtre, on ne côtoie pas les autres. Hein. Une fois qu'on est assis... Moi, j'y vais avec des amis et on s'assoit. Après, on se parle plus. Après,
on laisse faire les autres. S'il y avait un film qui vous racontait Paris, ou...
Évidemment, il y avait un Américain à Paris.
La même chose en français. J'ai du rythme, j'ai de la musique.
Où là, il y avait la danse, Gershwin, il y avait tout ce que j'aime, plus la vie de Paris. Mais enfin, un petit peu traité à l'américaine quand même, hein, décoré un peu. Bon, on retrouvait des petits emplacements parce qu'ils trouvent que ça c'est formidable. À l'époque, qu'on avait des petits boui-boui, enfin des guinguettes brusquement en plein Trocadéro. Enfin bon, ça c'est assez drôle. Le film qui est relativement récent, dont je ne me rappelle plus le nom, Jack Nicholson comme vedette. D'accord. Il y a une scène formidable qui était dans le restaurant où moi j'allais tout le temps, qui s'appelle le Grand Colbert, qui est dans la rue Vivienne. Bon, le Grand Colbert, maintenant, je crois que c'est plus géré par le même copain qui était là. C'était une raison aussi pour laquelle on était tous là. Et en fait, c'était devenu la cantine des gens qui travaillaient au théâtre et qui, en sortant du théâtre, allaient trouver un endroit pour pouvoir manger. Mmh. Donc, c'était devenu le Grand Colbert. Donc, on se retrouvait avec les copains qu'on n'arrivait jamais à voir parce qu'ils jouaient. Enfin, c'était joyeux, joyeux. Et ça, c'est un restaurant en plus. Quand ils l'ont récupéré, c'était l'équipe qui avait déjà un autre restaurant qui est dans une impasse à côté de Strasbourg-Saint-Denis. Bon, cette équipe-là ont repris ce restaurant qui était dans la rue Vivienne. Et quand ils ont fait des travaux, ils ont découvert qu'il y avait des fresques et des peintures qui avaient été cachées avec de la peinture ou des enduits par-dessus pour qu'on ne les voit pas, ou ça ne plaisait pas aux gens. Et le sol était formidable en mosaïque. Enfin bon, ils ont tout remis à neuf. Et c'était vraiment très beau, très français, genre les grandes brasseries des années 1900-1920, quoi.
On a parlé théâtre, et s'il existait une salle de spectacle qui vous tient à cœur, soit parce que vous en avez foulé la scène, soit en tant que spectatrice.
Mais moi, c'est le Casino de Paris qui me plaît le plus. Parce que bon, les Folies Bergères, j'ai répété pendant des moments où on avait ce spectacle à New York, qui était extrait des Folies Bergères, donc on a répété avec l'escalier monstrueux qui a les marches en 13 cm de profondeur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les descendre avec les pieds droits. Il faut que vous mettez les pieds de côté, d'un côté ou de l'autre. Et
ah oui,
et on répète, il y a à peu près une fois par spectacle où il y a un des mannequins nus qui finit par louper une marche. C'est très compliqué. Nous, on a répété, avant de partir à New York, on a répété pendant une heure, chacune devait s'occuper des marches.
En talons hauts, j'imagine.
Oui, bien sûr, talons hauts et tout. Tant que vous n'avez pas encore les plumes et le costume, on vous laisse éventuellement vous casser la figure. Mais après, bon. Non, mais le Casino de Paris, j'ai beaucoup aimé. J'y ai fait plusieurs fois un concert.
Notamment le spectacle Nougaro, le jazz et moi.
J'ai fini, oui, je crois que j'ai fini avec ça.
C'est de quel côté la scène? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais qu'est-ce qu'elle te reproche? Lorsque tu l'as trompée, elle ne l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche?
On a quand même une certaine promiscuité avec le... Et promiscuité carrément avec le public.
Il y a un côté intime quand même, malgré...
Oui, il y a le côté arrondi qui fait qu'on n'a pas l'impression... Parce que quand on est à l'Olympia, que j'ai fait deux fois, je crois...
Vous avez fait la première partie de Jacques Brel à l'Olympia.
Ça j'étais contente. On m'avait proposé de faire celle de Hallyday au début. D'accord. Et parce que je venais de sortir un 45 tours, j'ai refusé parce que j'ai dit non, je ne peux pas me retrouver dans un public qui vient pour Hallyday, parce que par contre j'ai fait une tournée avec Hallyday, j'ai compris. Vous rentrez sur scène, vous entendez Johnny, Johnny, jusqu'à temps qu'il soit là. Donc c'est frustrant. Et donc par contre, après, quand on m'a proposé celle de Brel, et j'en ai profité parce qu'il a été très sympa avec moi, je connaissais ces musiciens déjà. Il m'a laissé pouvoir rester dans les coulisses. Alors j'ai appris beaucoup de choses, quoi.
Il vous arrive de prendre Paris en photo?
Je suis presque anti-photo, moi. Je veux qu'il me reste des souvenirs.
Vous êtes la première invitée que je reçois qui soit vraiment parisienne, qui soit réellement née à Paris.
Je suis née, le bitume. Moi, je suis une enfant du bitume.
Il n'y en a pas, finalement, de gens qui vraiment sont nés à Paris et qui y sont encore.
Je ne sais pas. Il se trouve moi, mes parents étaient là et que je suis née là.
Et que vous y êtes restée. Et que vous aimez Paris.
Oui, je ne me suis pas encore décidée à aller vivre ailleurs. Oui. Donc, c'est que...
J'ai l'impression, au fil de notre discussion, que vous faites partie de ces amoureux.
J'ai fait
des
voyages. Oui. Je suis restée à peu près un an aux États-Unis, à New York. Je suis restée au Canada beaucoup, pendant une époque où j'y allais 3-4 mois par an. Je m'adapte. La vie américaine, elle est facile pour s'adapter parce que tout est fait pour que ce soit pratique. J'aurais dû faire la même chose en Italie, mais ça ne s'est pas produit. Parce qu'en Italie, c'est le charme. C'est un pays sublime. Je ne suis passée qu'en tournée. Alors, en tournée avec Marceau, on passait une nuit dans un théâtre. On repartait le lendemain midi. Ouais. Donc, je suis passée au travers. Rome, j'ai dû y rester 3-4 jours, alors ça m'a beaucoup plu.
Et enfin, pour finir, sur une note musicale, et si dans le ciel de Paris s'envolait une chanson, ce serait laquelle ?
À Paris !
À mes débuts, je cherchais des chansons françaises que je puisse adapter en jazz avec mes musiciens. Je me suis trimballée sous le ciel de Paris pendant un moment, et puis une autre de Francis Lemarque, qui a vraiment écrit des très jolies chansons sur Paris, et que j'arrivais à faire swinguer avec mes musiciens. D'ailleurs, quand j'ai auditionné pour partir à New York avec les Folies Bergères, c'est ça que j'avais.
Comme présentation d'audition, c'est ça?
Pour faire l'audition. Oui. Sinon, ah non, il y a une chanson, oui, qui n'est pas connue sauf pour les fans de Michel Legrand. Une chanson qui s'appelle Paris Violon.
La rue de l'Harpe et la contrescarpe à l'heure où le jour se fait vieux. S'offre des musiques à plier boutique, des musiques à fermer les yeux.
Paris violoncelle, j'ai ta chanson au cœur qui chancelle. Bon, en plus, c'est un texte d'Eddy Marnay superbe. Et celle-là, j'ai chanté beaucoup parce que elle était un peu, c'est là où le grand était très malin, c'est qu'elle était un peu comme une valse d'accordéon. Je l'ai beaucoup utilisé pendant un moment. J'avais tout un programme comme ça. Moi, il y a toujours eu des chansons de Legrand, des chansons de Nougaro dans mes programmes. Après, c'est pas ce que les gens ont choisi. Puis il fallait, pour se faire repérer par le public, il faut avoir des chansons qui sont nouvelles, quoi, qui sont pas connues. Après, on peut faire, jusqu'à la fin de ces jours, on peut faire des programmes avec toutes les grandes chansons qu'on
Les chansons plébiscitées, j'imagine, voilà, dans d'autres langues. Parlez-moi de lui existe en espagnol.
Je les ai faites. Je les ai faites en espagnol. J'ai fait un album entier de toute la bande son d'un homme et d'une femme en allemand. Mais en réalité, ce qui a fonctionné aux États-Unis, c'est l'album qu'on avait fait en français, la bande son du film.
Comme
donc je m'étais coltiné toute la bande son en anglais avec un anglais qui était venu parce que Pierre, l'anglais c'était pas son truc, puis il avait pas envie. Et en fait il a pas eu tort, parce qu'une fois qu'on l'a fini, la maison de disque a préféré finalement sortir l'album en français. Parce qu'il y avait justement le charme français.
Mais le Shabadabada, si je ne me trompe pas, ça a été un peu improvisé.
Lelouch voulait absolument partir avec la musique parce que pour lui, la musique avec Francis, c'était comme un partenaire supplémentaire. C'était comme un acteur qui allait avoir une importance énorme dans le film. C'était ça, son idée. Donc, Barou n'était pas prêt, il n'avait pas écrit. Il m'a dit, comment veux-tu que j'écrive sur le film? Il n'a pas fait. Moi, je veux écrire une chanson qui va représenter le sujet du film. Il me dit, il n'a pas fait. Alors, je lui dis, écoute, on n'a qu'à faire des onomatopées parce que là, ça va être redoutable. Hein. Donc, comme il aimait le brésilien et que moi, je venais du jazz, on a concocté un truc très simple. Ça a marché. Et puis, il y a un journaliste qui a fait Shabadabada et c'est devenu Shabadabada. Or, Shabadabada, quand on veut savoir exactement d'où ça sort, c'est les musiciens qui utilisaient ces onomatopées parce que le cha, c'était les batteurs. Le cha, c'était la cymbale, le bruit de la cymbale. Il y a un journaliste qui a relevé ça. Allez savoir pourquoi. Bon, il a cru que c'était ça. Et c'est devenu Shabada. Et on a dit, mais Shabada, c'est pas ça. C'est pas la chanson du film, Shabada. On n'a jamais dit Shabada. On a rempli ce... C'est parce que Lelouch, quand il est rentré du tournage, il a dit à Barou, écoute, tu me gardes le Dabada parce que toute l'équipe technique s'est mise à chanter ça. C'est un gimmick génial. Et Barou, qui était quelqu'un de très, très, très doué, est arrivé à faire un texte. Comme nos voix, chante tout bas, nos cœurs y croient, comme une chance, comme un espoir. Et si on ne met pas les Dabada, le texte est là, quoi.
Moi, toi et moi.
Eh bien, Nicole, un grand, grand merci pour ce moment. Alors, j'ai coutume d'offrir à mes invités un livre sur Paris qui soit un petit peu en lien avec l'histoire. Et là, j'ai choisi un livre d'un chanteur qui a fait de la photo. Parce qu'on a eu dans nos échanges avant de se voir, vous m'avez parlé de cette difficulté qu'on a en France à accepter le fait d'avoir plusieurs casquettes. Vous me disiez que quand vous étiez danseuse, on dit non, tu ne peux pas être chanteuse, on ne peut pas tout faire ou tout faire bien.
Oui, oui.
Et je trouvais que ce livre qui est là, donc je vais vous le laisser dans le sac.
Mais dites-moi.
C'est un livre de Vincent Delerme.
Le fils de Delerme.
Alors le fils fait non seulement de la chanson, mais aussi des photos. Et il a photographié Paris. Avec quelques petits textes.
C'est le digne fils de son père.
Oui, oui. Hein, voilà, donc c'était pour le clin d'œil. Pardon, je vous laisse le sac pour le... Voilà, et vraiment merci pour cet échange. C'est récent, et voilà, c'est une preuve que les artistes peuvent toucher à bien des domaines.
Avec collage.
Oui, il y a un peu de tout, il y a beaucoup de références cinématographiques.
Avec du texte écrit.
On en voit de plus en plus là, ces chaussures suspendues à des fils, à des câbles dans Paris. Ce sont des paires de chaussures.
Ils l'ont fait à Paris, ça ?
Oui, oui, on le voit de temps en temps. J'en ai vu dans le 20e, il n'y a pas longtemps.
Dans le 20e, oui, c'est ça. J'allais dire le 20e ou alors au-dessus,
Belleville,
au-dessus de la chapelle.
Ouais, Barbès.
Je pensais à ça. Il fait de l'art, le Vincent. Il ne fait pas que des chansons. Oh oui, ça.
Les cadenas, sur les ponts.
Ils les ont enlevés, mais je crois que ça recommence.
Ah,
oui.
Parce que ça a été remplacé par des plexiglas sur le pont des Arts, notamment.
Sur le pont des Arts. Mais partout où il y a maintenant un truc où ils peuvent accrocher. Le coup des cadenas, c'est devenu le type qui se fait.
Qui vend ses cadenas.
Il a trouvé. Hein. Ah oui, c'est très beau. Dites-moi. Ouais. Bon, bah, on va faire ça maintenant.
Merci.
Cet épisode a été enregistré le 9 octobre 2023 sur l'île aux Cygnes dans le 15e arrondissement de Paris. Il a bénéficié du soutien de la SACEM, de l'extrême gentillesse de Nicole, de la complicité de Brice, du talent de François et de la confiance indéfectible de Xavier. À tous, un immense merci. Et le film évoqué avec Nicole dont on ne trouvait plus le titre, c'était « Tout peut arriver ».